salut l'horoscope. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue à l'émission À Table sur Fly FM en compagnie de Sacha à la technique. Salut Sacha.
Salut.
Et aujourd'hui, je reçois Julien. Alors, Julien.
Comment? Salut François, salut Sacha. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Alors, Julien, c'est un chef à domicile.
Exactement.
Qui fait aussi des
repas.
Et on appelle ça les cuisines éphémères, c'est ça?
Voilà, c'est ça, exactement. C'est un nouveau format que je propose.
D'accord. Donc, on se connaît parce que, en fait, on a fait connaissance parce que j'étais venu à l'émission de Roland qui m'avait dit viens, il y a un chef à domicile. Tu verras, il est super sympa et tout. Et on a accroché, j'ai dit à Julien, il faut que je t'invite à mon émission.
Et je suis très content d'être là, je te remercie de m'avoir invité.
Voilà, et moi aussi je suis très content que tu aies accepté de venir à mon émission. Donc Julien, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu as un peu nous parler de toi, un peu de ton parcours.
Ouais.
Je sais que tu es parti à l'étranger travailler.
Ouais, j'ai bossé à l'étranger, ouais.
Voilà, on va en parler, tout ça. Comment tu as commencé la cuisine?
Alors moi j'ai commencé très tôt, hein. J'ai commencé, dans les pattes de ma grand-mère.
Oui.
Donc j'ai commencé la cuisine à mon plus jeune âge. Et puis après, arrivé en troisième, j'ai fait mes premiers stages, donc je me suis orienté vers des restaurants. Et puis j'ai fait mon premier stage à la Colombe à Bédouin et il m'a mis en pâtisserie et j'ai eu un coup de cœur. Donc je suis avant tout un chef pâtissier. Et voilà, donc du coup, j'ai passé un BEP hôtellerie-restauration à Alexandre Dumas, à Cavaillon. Et après, j'ai fait une mention complémentaire au campus à Avignon, à la CCI. Et après, je suis parti dans de beaux établissements. Donc j'ai bossé au Martinez à Cannes, j'ai fait des relais châteaux, j'ai bossé en Savoie, à l'abbaye de Talloire, au Belvédère en Corse, qui a une étoile guide Michelin. Et après, j'ai fait le Moulin de Vernègue. J'ai fait le Mas des Herbes Blanches, qui sont tous les deux des relais châteaux. Et je suis parti à Saint-Barth pendant 5 ans, où j'ai bossé aussi dans des relais châteaux.
D'accord.
Et puis je suis revenu en 2018. Et après ça, je suis allé bosser à Mazan en tant que chef pâtissier. Et on a décroché une étoile guide Michelin. Donc, entre les deux confinements, donc c'était une très très belle aventure. Donc j'en suis quand même un petit peu de fierté quand même.
Il faut avoir de la fierté.
Mais voilà, j'étais en pâtisserie et puis depuis 2018, je suis chef de cuisine et j'ai lancé, je suis chef à mon compte depuis 2 ans maintenant. Et je fais, voilà, chef à domicile et récemment, je me suis associé avec, là aussi, Châteauneuf-du-Pape pour organiser des repas. Et je cuisine dans les domaines, chez les vignerons directement. Donc c'est justement ce qu'on disait il y a 2 minutes, c'est justement les tables éphémères. Donc j'ai lancé le premier le 15 mars.
Alors parle-nous un peu de ton aventure à Saint-Barth.
Eh bien écoute, à Saint-Barth, ça s'est très très bien passé. Après, il fait tout le temps beau, il fait tout le temps chaud, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et je suis rentré à l'hôtel de Toigny, où j'ai fait une saison. Et après ça, j'ai rencontré des patrons de restaurants avec qui je m'entendais très bien, vu que ma saison était finie, donc ils m'ont proposé d'aller avec eux travailler. Donc j'y suis allé et j'ai travaillé sur un restaurant de plage, voilà, donc au Dobrasil.
C'était quoi la spécialité un peu dans ce restaurant un peu,
Là-bas, c'est beaucoup, beaucoup de poisson. Hein. On cuisine beaucoup de poisson, beaucoup la langouste. Beaucoup la langouste.
Moi, j'adore ça.
Parce que la langouste, elle est pas chère là-bas. Donc, non. Et puis, il y a du maï-maï, du waou, du vivano. Tous les poissons sont différents là-bas. Donc, c'est vraiment axé beaucoup sur la mer. Donc c'était une très très bonne expérience.
Et fruits de mer aussi.
Fruits de mer un peu
moins.
Ouais, c'est plus importé quand même parce que ça vient, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de produits qui viennent de France.
Oui.
Donc, mais après ils cuisinent beaucoup local aussi, hein. Donc là-bas ils ont pas à se plaindre, ils ont de la langouste à foison et ils ont des beaux poissons, la dorade coryphène, donc le mahi mahi. Ils ont du vivano et du wahou. Donc c'est quand même, ils mettent quand même en avant leur terroir.
D'accord. Et il y a une spécialité un peu, une cuisine spéciale.
Ouais, ils cuisinent le cabri. Le rougail saucisse, tous ces plats un peu ouais. Créole. Voilà, c'est guadeloupéen, hein, Saint-Barth, donc c'est de la cuisine créole. Hein. Donc il y a pas mal de choses.
Ouais, et les fruits, tout ça aussi.
Ouais, les fruits, tous les fruits exotiques, hein, ananas, mangue. Mais après, à Saint-Barth, malheureusement, c'est un petit caillou qui fait 20 km², donc il n'y a pas grand-chose qui pousse, donc c'est forcément importé. Mais oui, tout ce qui est
produits locaux.
Ouais, produits locaux. Après, ils font beaucoup mangue, ananas, passion, maracuja. Voilà.
Ouais, très bien.
C'est plein de couleurs.
Une belle aventure.
Ouais, une très très belle aventure. J'en garde un très très bon souvenir. Et je suis toujours très ami avec mon patron, avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans du coup, parce que je l'ai suivi dans ce premier restaurant. Et puis après, il a pris la gérance d'un restaurant. Et c'est là que je suis revenu à la cuisine, parce que il m'a placé en tant que seconde cuisine et chef pâtissier. Donc j'avais la double casquette dans son établissement. J'ai eu la chance de faire 2 saisons de plus avec lui dans son restaurant qui s'appelle le Santa Fe, qui malheureusement est fermé aujourd'hui, mais voilà.
Et quel autre pays tu as visité encore en travail ou...
Après j'ai juste fait la Corse, et après tous les voyages que j'ai fait, c'est beaucoup de voyages de vacances.
Et en Corse,
donc,
alors
la Corse, j'y suis resté 4 ans et demi.
Oui.
J'ai bossé au Belvédère, qui est un restaurant à Porto Vecchio, pardon, qui a une étoile au guide Michelin. J'ai fait une saison là-bas et après je suis parti un peu dans d'autres restaurants, dans d'autres styles de restaurants, style restaurant de plage, parce que j'avais envie de m'orienter sur d'autres choses.
Oui.
Donc mais c'était une très très bonne expérience, j'ai appris beaucoup de choses, et contrairement à ce qu'on dit, la Corse est très accueillante. Et si on s'y intéresse vraiment, il y a vraiment de belles choses à découvrir. J'ai été voir les mamas faire le brunch et la charcuterie au fin fond de la montagne, dans des petits cabanons. J'ai vraiment apprécié l'hiver y vivre.
Nous, on a reçu il y a quelques temps de ça et l'auberge Saint-Roch de Baume de Venise,
ouais,
où ils sont spécialisés sur la cuisine provençale, mais beaucoup de ils importent beaucoup de trucs de Corse.
Ouais.
Ils ont été en Corse et tout.
D'accord.
Ils sont venus. Je leur fais un petit coucou s'ils nous écoutent.
Eh bien, bon coucou à eux.
Voilà. écoute, on va faire Sacha une pause musicale et on se retrouve tout à l'heure.
Allez, à tout à l'heure.
AFM dans l'émission À Table avec Julien et Sacha. Alors,
salut.
Julien, on parlait de ton parcours en Corse.
Ouais.
Donc, tu me disais que tu faisais...
Que j'avais appris beaucoup de choses en y vivant vraiment pendant 4 ans. Donc,
oui.
J'y suis vraiment resté l'été, l'hiver. J'ai vraiment vécu là-bas 4 ans à plein temps. Et j'ai vraiment adoré la culture et
l'état d'esprit.
Ouais, l'état d'esprit. Et puis, c'est, la Corse, c'est pas que les belles plages et Bonifacio et Porto Vecchio. Il y a vraiment une belle culture et il y a vraiment de très bons produits, vraiment. Et puis voilà, ça, ils ont des traditions. C'est toujours les grands-mères qui font la charcuterie. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, hein, les grands-mères ou les grands-parents. Donc, j'ai vraiment apprécié. J'ai appris plein de choses. Et c'est vraiment, ils ont un terroir culturel impressionnant.
Il faut aller dans les profondeurs, dans les montagnes.
Ouais. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment s'y intéresser. Faut pas. C'est sûr que si on y va l'été 2 semaines pour la plage, c'est bien. Mais quand on a la chance d'y vivre. Je pense que c'est quand même bien de s'y intéresser, surtout quand on est un passionné de cuisine. Il y a vraiment des beaux produits à voir, il y a vraiment des anciennes méthodes traditionnelles qui sont encore respectées. Donc, je défends ce terroir. Vraiment, ils ont un grand respect pour moi parce que j'ai vraiment appris plein de choses. Et puis j'étais jeune, quand on est jeune, on est toujours les yeux pétillants d'acquérir plein de nouvelles choses. Donc, j'en garde un très très bon souvenir.
Et tu me disais que tu avais travaillé dans des étoilés et des bistrots, et que tu disais que il fallait être fier de...
Ben ouais, parce que je fais pas partie de cette catégorie de, entre guillemets, de cuisiniers. Je vais peut-être me faire haïr en disant ça, mais je pense qu'il n'y a pas de du moment qu'on aime son métier, voilà, c'est bien, on fait de faire son expérience. Donc moi, j'ai fait des étoilés, j'ai fait des 2 étoiles Michelin, j'ai fait des restaurants gastronomiques, mais j'ai aussi fait des restaurants de plage où on faisait 400 couverts. Et en fait, tout est bon à apprendre dans chaque restaurant, parce que les restaurants où tu fais beaucoup de monde, t'apprends la rapidité, t'apprends à être bien en place. Après, sur les étoilés, t'apprends la technique, t'as de la patience. Voilà, il faut on en apprend de partout, de toute façon, on apprend tous les jours dans ce métier. Donc je pense que c'est bien de tout voir et qu'il ne faut pas rester figé dans un seul domaine, parce que je trouve ça un peu triste.
Ouais, tu apprends comme ça.
Ouais, et puis tu apprends plein de choses. On apprend plein de choses de partout, hein, du petit restaurant, du petit bistrot aux 2 étoiles Michelin. On en apprend tous les jours. Donc je suis quand même content, je suis quand même fier de ma carrière, parce que j'ai vu plein de choses et ça m'a appris plein de choses. J'ai vu plein de techniques, du traditionnel au gastro. Donc forcément, moi je compose. Maintenant, je compose ma cuisine avec ce que j'ai vu, ce qui m'a plu, ce qui m'a touché, voilà, les souvenirs.
Alors parle-nous justement de la différence entre les restaurants étoilés et les restaurants, on va dire, des restaurants classiques, les bistrots, tout ça. Pas dans la cuisine, mais de l'organisation. Est-ce que dans les étoilés, c'est moins rapide, est-ce qu'il faut prendre un peu plus de temps?
Oui, il y a beaucoup plus dans un étoilé, il y a quand même beaucoup plus de manipulation sur les dressages, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie, hein, parce que moi, des étoilés, j'en ai plus fait en pâtisserie qu'en cuisine, mais forcément, on s'accroche plus aux détails dans les étoilés, tu vois, il y a une finesse, il y a vraiment plein de petits détails qui sont sur le dressage, la beauté, il faut que ce soit parfait, il y a vraiment une exigence. Il y a aussi une exigence dans les autres restaurants de style bistrot, restaurant de plage, mais il n'y a pas de fioriture, entre guillemets, si je peux me permettre, tu vois, de dire ça, mais il n'y a pas de fioriture en plus pour dire on met ça pour...
Il y en a quelques-uns qui commencent dans les restaurants, des petits bistrots, tout ça, qui commencent aussi à mettre des petites fleurs.
J'en fais partie, hein, parce que moi aussi, je mets des fleurs comestibles. Après, j'essaye de mettre des choses qui ont du sens dans l'assiette, c'est pas mettre des fleurs pour mettre des fleurs, mais forcément, aujourd'hui, on arrive dans une ère où c'est du visuel. C'est du contenu, c'est les réseaux. Donc, dès qu'on a un restaurant, il faut publier, il faut que les gens y voient. Donc, c'est sûr que si on met une assiette qui n'est pas bien dressée, forcément, ça attire moins l'œil. Mais c'est 2 écoles différentes. Et moi, je suis très content d'avoir fait les deux parce que j'ai appris. Pour en revenir à ce que tu disais, dans les étoilés, voilà, c'est très technique, il y a beaucoup de manipulations. On a les menus à l'avance, donc les gens, quand ils viennent, ils prennent entrée, plat, dessert, donc à peine ils sont arrivés à l'entrée qu'on sait déjà le dessert qu'ils ont, donc on a vraiment le temps de se mettre en place, de vraiment faire les choses vraiment parfaitement. Dans un menu bistrot, dans un restaurant bistrot, le client, il va prendre son entrée, son plat, et puis t'as le dessert au dernier moment, donc c'est pas pareil, c'est une autre organisation. On fait pas la même chose dans un bistrot que dans un étoilé, ou dans un restaurant de plage, hein. Mais les deux cuisines sont très bonnes. Moi, j'adore. J'ai vécu pendant un an et demi à Paris, et j'adorais aller manger dans les bistrots, dans les bouillons, parce que justement, je trouve ça bien. Tu dis, il en faut des restaurants comme ça.
Et point de vue carte, elles sont beaucoup plus fournies ou moins fournies que les bistrots?
Ça dépend de l'établissement. Hein. Il y a des établissements qui travaillent que sur menu. Ouais. Par exemple, dans les étoilés, il y en a qui travaillent que sur menu ou qui ont des plats à la carte à côté, mais qui vendent beaucoup de menus. Après, dans les restaurants, il y a de tout. Ouais. Moi, j'aime aller dans les restaurants où il y a 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Parce que quand il y a trop de choix, pour moi, c'est compliqué pour un chef.
Ouais.
Donc c'est différent. C'est vraiment différent, mais je trouve que... Après, il y a des étoilés qui proposent des formules bistrot le midi. Il y a vraiment de tout.
Alors moi j'ai eu l'occasion de voir ton travail. Alors allez sur son Instagram, vous verrez son travail. Il y a des photos magnifiques. Tu m'as dit que tu avais un nouveau photographe.
On va parler un petit peu. J'ai fait le repas là, le 15 à la Villa Nadea. Donc c'est un repas en association avec l'AOC Châteauneuf du Pape. Donc je suis allé cuisiner à la Vinothèque. J'ai fait un repas éphémère pour 12 personnes. Et j'ai trouvé un photographe qui est génial. Je suis très très content. Donc il m'a fait les photos de ce repas et il va collaborer avec moi.
Si tu veux.
Oui, Ronan Kelenek, qui est allé sur la Sorgue. Donc salut à toi si tu nous écoutes. Et ce sera mon photographe avec qui je vais travailler à partir de maintenant, parce qu'on a eu un bon feeling. Et je pense que c'est important aussi d'avoir un bon feeling, que le photographe comprenne ta cuisine un petit peu, comment tu vas dresser. Et je pense que c'est bien, parce qu'il faut être vraiment transparent, lui dire vraiment ce que tu veux dans ton assiette, ce que tu as envie. Et lui, après, il rajoute ça à son œil. Et je suis vraiment très satisfait de son travail.
Ouais, moi, j'ai vu les photos, là. Elles sont magnifiques.
Ouais, elles sont très, très belles.
Ça pourrait faire un bouquet.
Ouais, mais qui sait, peut-être.
Voilà, on va faire une coupure musicale. On va s'écouter Miley Cyrus et Metallica. Sacha, le titre ?
Nothing Else Matters.
Allez.
Let's go.
Let's go.
And nothing else matters. more from the heart. Forever trusting who we are. No, nothing else matters. No, nothing else matters.
J'adore la, l'original, mais c'est là, alors je la kiffe grave.
Elle a vraiment une voix impressionnante, Miley Cyrus. Voilà.
Bon, on est de retour sur l'émission à table, toujours avec Julien, Sacha, et on a le stagiaire Martin qui est derrière, là-bas.
Il est caché.
Ouais, il est plus timide.
Hein. Il est timide.
Donc, on en était, on en parlait.
On parlait des
étoilés.
Des étoilés, voilà, du fonctionnement entre les étoilés et les restaurants bistronomiques.
Et maintenant, on va parler un peu de tes tables éphémères. Oui, Sacha.
Est-ce que je peux ajouter une toute petite anecdote?
Oui,
par rapport au bistrot.
Ouais.
Est-ce que vous savez d'où vient le mot bistrot?
Ben, tu vas nous le dire.
Pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, les Russes sont venus en France.
Ouais.
D'accord ? Et ils trouvaient que les serveurs étaient un peu lents. Et pour dire plus vite, ils faisaient bliste, bliste. Pour dire plus vite, plus vite. Le mot bistrot est venu de là. Voilà.
C'était la minute culturelle.
Voilà.
C'était la minute
culturelle. Je savais que ça. J'avais entendu parler.
Je
savais qu'il y avait un truc avec les Russes. Et je ne me rappelle plus trop.
D'accord. Ben ouais. Voilà, maintenant, on saura.
Sacha, c'est le Wikipédia de la radio.
Bravo, bravo pour cette belle culture.
Voilà, donc on va revenir sur tes tables éphémères.
Ouais.
Alors, ta première que tu as faite...
15 mars.
Le 15 mars. Alors, ça a très bien marché.
C'était franchement cool, on a fait complet. Donc bon, après, c'est... pas sans couvert, hein. Mais non, c'est intimiste. Donc là, j'avais 12 convives. Le concept, c'est tout le monde à la même table, tout le monde se mélange. Et ça a fonctionné dingue. C'était incroyable. Donc du coup, tout le monde m'a fait des super retours, les gens étaient super contents.
Oui.
Et là, j'en fais un deuxième. Donc celui-ci, là, je vais dire... Alors le premier...
Dis-nous un peu le premier, le menu que tu avais préparé, parce que tu m'avais dit qu'il y avait 7 plats, c'est ça ?
Il y avait 9 plats.
9 plats.
Donc il y avait les petites grignoteries apéritives.
Oui.
Donc il y avait un petit velouté de cresson avec chantilly caviar.
Oui.
Après, j'avais fait des petites tartelettes de maquereau grenade citron.
Mmh.
Il y avait des petites crevettes enroulées de pata negra et de wasabi.
Pata negra.
Ah, ça c'est bon.
Oui, oui.
Ah oui. Et en dernier, j'ai fait un petit gravlax de saumon. Et en fait, j'ai roulé ça comme un maquis. Et à l'intérieur, j'avais mis une petite crème légère, citron, graines de coriandre. Donc c'était top. Après, ils ont eu un petit amuse-bouche. Alors celui-ci, je ne le révélerai pas, parce qu'il a très bien fonctionné.
Voilà. Et donc c'est une recette. Il faut que tu gardes un peu des secrets.
Il faut que je garde un peu des secrets. Il faut garder un peu du mystère.
Mais après, tu pourras me le dire.
Je te le dirai
en off,
je te le dirai sans problème, avec grand plaisir. En entrée, je leur ai fait un foie gras maison avec une mousseline de panais que j'ai servie froide à la fève de tonka. Après, en poisson, je leur ai fait un saumon avec des poireaux que j'ai confits dans du beurre de cacao en basse température. Et c'était servi avec une sauce oseille et cresson.
Ouais.
Petit trou provençal, obligé. Après, ils avaient en plat...
À consommer avec modération.
Ouais. Surtout la glace.
Tu as mis quoi
Sorbet poire et élixir du Mont Ventoux.
D'accord.
Donc c'est une liqueur à base de plantes qui est faite par... je crois que c'est Maison Blachère. Oui, c'est Maison Blachère.
D'accord.
À Châteauneuf-du-Pape. Donc, ils ont eu ça. Après, ils ont eu la viande. Alors, la viande, j'ai fait un filet mignon de veau en basse température. Mmh. ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était d'une tendresse. C'était génial. Franchement, même moi, je me suis surpris.
Ah ouais?
Ah ouais, ouais. En basse température, le filet mignon de veau, c'est vraiment juste une tuerie. Ils n'ont même pas eu besoin du couteau. Ils se coupaient à la fourchette.
Ah ouais.
C'était. Ah ouais. Qu'est-ce que je leur avais mis avec ça? Que je te dise pas de bêtises. Ben, j'ai un trou. J'ai un trou, j'ai un trou.
Ah, le trou normal.
Voilà, c'est ça.
À consommer avec modération.
Je sais plus, je me souviens plus. Oui, ils ont eu, pardon, carottes en deux textures, une petite mousseline de carottes.
Oui.
Des mini carottes.
T'as fait rôtir au.
Que j'ai fait. Non, je les ai faites cuire en basse température, oui. Pardon. Et j'ai gardé les épluchures des carottes. J'ai fait une poudre de carottes.
Ah oui.
Et je leur ai mis ça dessus le filet mignon de veau avec un jus corsé. Très, très, très corsé. Fromage, sélection de fromage. Une petite planche de fromage avec des chèvres aux fleurs. Voilà, c'était une sélection que de chèvres. Parce que l'accord mets et vins qui était fait, on s'était mis d'accord que ça allait très bien avec le chèvre. Donc du coup, on avait fait que du chèvre en fromage. En pré-dessert, on leur a fait un petit pré-dessert un peu Pepsi. Chocolat, mangue, piment d'Espelette.
Ouais.
Donc il y avait la douceur et l'amertume du cacao. Après, il y avait un sorbet à la mangue maison, bien évidemment. De toute façon, je fais tout maison. Et dedans, j'ai mis un petit peu de purée de piment d'Espelette. Donc, ça a rehaussé un peu le goût un peu poivré de la mangue. Donc, ça a donné un petit côté peps et un petit peu de poudre de piment d'Espelette dessus. Et en dessert, on a fait quelque chose de très, très, très gourmand. Une petite tarte tatin minute. Avec un petit crumble en base, les petits ananas qu'on a fait confire tout doucement.
Une tatine d'ananas.
Ouais, tatine d'ananas. Dedans, j'ai mis un petit peu de gingembre, un petit peu de citron vert. Et on a servi ça avec une glace au caramel beurre salé et un caramel beurre salé.
Bon, je vais vous laisser, là, j'ai faim.
Ouais, là, ça va être bientôt l'heure.
Ça donne envie.
Hein.
Ça donne envie. Sacha, il salive.
Donc, j'ai eu des super retours. Les clients étaient franchement contents. Et ça fait plaisir. C'est quelque chose j'avais toujours un peu le doute. On ne sait jamais, en fait, comment ça peut se passer quand on met tout le monde à la même table, parce que les gens ne se connaissent pas.
Ouais.
Donc, et puis, en fait, les gens sont arrivés au bout de 10 minutes. C'est comme si tout le monde se connaissait, tout le monde se parlait. C'était génial. J'ai l'impression qu'on n'a plus d'échanges dans la rue. Donc, c'est bien de pouvoir rassembler les gens et je suis très content de faire ça.
Alors, quand tu me parles de ton concept, ça me fait penser un peu dans ce que j'ai vu un peu des fois dans Top Chef et tout, quand ils font les dîners dans le noir, un peu dans ce contexte-là. Je dis pas que c'est le même contexte, mais c'est...
Non, après,
ça part dans le
convivial.
Dans le convivial et ouais. Dans l'intimiste. Et c'est pas les mêmes choses. Même des fois, t'as des repas où ça se passe en hauteur, à des hauteurs immenses, où ils sont que 6 ou 7 à manger. Mais c'est intimiste.
C'est un petit peu le concept que j'avais envie de faire. Mais en plus, je suis tout seul à cuisiner.
Ouais.
Donc sur des menus comme ça, en 9 étapes, ça représente quand même pas mal de travail. On va pas se le cacher, mais c'est vrai que le but c'était vraiment de faire quelque chose de très intimiste. Et puis j'aime, là j'ai cuisiné, les clients étaient à 1 mètre de moi, donc de vraiment pouvoir échanger avec eux, c'est pas comme quand on est dans un restaurant où le cuisinier...
Ils venaient te voir,
En fait, c'est ce qui est bien, c'est qu'ils avaient pas forcément besoin de sortir de table parce que j'étais à 1 mètre 2.
Ah oui,
je
d'accord.
Cuisinais vraiment devant eux, je dressais les plats devant eux, donc j'échangeais directement avec eux. Et on a pas mal échangé, pareil, les gens qui viennent aiment la cuisine, donc il y en a plein qui demandent des conseils.
Tu es installé au milieu et les gens sont
non.
autour.
Là, la cuisine était faite, c'était un peu comme une cuisine de maison, avec un petit comptoir rehaussé.
Oui.
Donc j'avais un premier étage pour dresser mes plats à hauteur de hanche. Et après, j'avais c'était rehaussé de 30 cm. Et les clients étaient en face de moi. Donc il y avait une grande table de 12. Et quand je dressais, ils étaient vraiment en face de moi. Donc du coup, c'est vraiment la proximité. On ne peut pas faire plus proche, à part si je m'assois à la table avec eux.
Ouais.
Mais c'est ce qui me plaît dans ce concept. C'est vraiment de changer un peu. Et puis là, le prochain, on va carrément aller cuisiner dans le domaine, du viticole, du vigneron. Donc ça, c'est le 12 avril. Ça va se passer au domaine de la Consonnière. Donc là, on est sur une autre formule. Parce que là, la formule que je proposais, c'était un dîner le soir en 9 étapes. Donc, c'est quand même relativement costaud. J'ai dit à mes clients de pas manger le midi. Parce que il faut quand même avoir faim. Là, on est sur une autre formule. J'ai fait une formule en 6 étapes. Donc, c'est à 90 euros. avec la Cormeévin. Donc c'est au domaine de la Consonnière, chez Sébastien Cuscussac, il y a un domaine de 14 hectares et demi, et il produit 5 vins, un blanc, un rouge, l'Irak, et voilà, donc du coup on est parti sur cette formule, par contre là ce sera pour 20 convives.
D'accord, voilà. tu as remonté le...
Ben en fait vu que c'est une autre formule... Que ça se passe le midi, je le présente un peu sous une autre formule avec un peu plus de monde. C'était aussi l'accord qu'on avait ensemble. C'était pas que ce soit trop intimiste. Donc et puis là il y a une vraie, enfin là on a la chance de le faire le midi, donc on prie pour qu'il fasse beau parce qu'il va y avoir un vrai programme où les gens vont venir. On va essayer de les faire venir vers 10h le matin pour qu'ils partent découvrir le domaine, qu'ils aillent balader dans les vignes, qu'ils puissent expliquer un peu l'histoire de son domaine.
Alors j'avais une question à te poser là-dessus. Comment tes clients tes clients, les gens qui vont venir manger, sont au courant que tu organises. Admettons, moi je te connais pas, j'entends pas. Comment je pourrais savoir que.
Que j'organise ça ?
Ouais.
Eh ben, là,
est-ce que c'est quelque chose de fermé ?
Non,
de...
pas du tout. Non. C'est vraiment ouvert à tout le monde, justement. C'est ce qu'on veut. C'est le but de ces repas, c'est vraiment de faire venir les gens qui aiment bien évidemment le vin. Puisque le but, c'est... On ne les force pas à boire, mais c'est vraiment... Tous les repas se passent en accord mais vin. Donc, à chaque plat, il y a un verre de vin qui va avec, qui est à chaque fois le vin du domaine. Donc, ça permet aussi de faire découvrir... le vigneron peut faire découvrir son domaine et ses bouteilles de vin. Donc là, forcément, c'est le début. Donc là, j'ai envoyé un petit peu des messages aux clients que je connais quand même.
Voilà.
Mais après, je commence à en parler un peu sur les réseaux.
Oui.
Dans ton émission de radio.
Bien sûr.
Voilà, donc je t'en remercie. Et donc après, voilà, il va falloir un petit peu. C'est vrai que je fais pas de pub. Je fais pas de pub sur les radios ou j'ai pas de grande pancarte. Mais ça va beaucoup se faire sur les réseaux. Donc il faudra me suivre et je diffuse à chaque fois. Là je vais diffuser demain ou après-demain le prochain repas, et les gens vont le voir à travers ça. Donc après, bien évidemment, je compte sur mes amis qui m'aident beaucoup et qui partagent. Donc après, des amis qui partagent,
moi je t'aime beaucoup partage,
je t'en remercie. Donc voilà, non, pour l'instant c'est un peu sur les réseaux et j'espère que ça va faire du bruit et que bientôt j'aurai plus besoin de le publier sur les réseaux et que j'aurai pas besoin. Mais si on a quand même toujours besoin, mais vu que c'est le début là pour l'instant, mais après non, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Le monde peut venir. Et justement, c'est ce qu'on veut, c'est qu'il y ait vraiment que tout le monde se dise, voilà, c'est cool, on peut y aller, quoi. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc là, ça va sans doute commencer à en parler un peu à Châteauneuf. Donc les gens de Châteauneuf vont vite le savoir. Et puis moi, après, je m'occupe d'en parler au maximum de gens aussi, pour que les gens soient au courant. Et après, voilà, c'est les réseaux. Hein.
Bon, Sacha, on va faire une coupure musicale. Et on se retrouve tout à l'heure. Tu vas nous parler un peu de ton prochain repas.
On va parler du repas,
saliver tout le monde. Pour sur Fly FM dans l'émission à table, toujours en compagnie de Julien et de Sacha. Alors, vous savez, donc il y a l'émission, mais en off, on parle beaucoup de cuisine encore.
C'est vrai, on échange beaucoup.
Voilà. Donc, ce que je te propose, Julien, c'est. On va parler justement de ton menu du 12.
Oui.
Avril.
Très bien.
12 avril.
Ça me convient.
Et après, je te propose, après le 12 avril, de revenir à l'émission, si ça te dit.
Ouais.
Et de reparler justement de comment ça s'est passé.
Avec grand plaisir. Et puis, on vous donnera les dates des futurs événements, parce qu'on a déjà trois autres qui sont réservées, trois dates qui sont bloquées derrière. Donc, on en parlera avec grand plaisir.
Allez, on fait comme ça.
On fait ça. Deal.
Alors,
c'est fait.
Dis-moi. Parle-nous de ton menu.
Alors, donc le 12 avril, on est sur une formule du midi, donc ce sera une formule déjeuner. On espère que le beau temps sera avec nous, bien évidemment. On sera début de printemps, normalement il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Donc les convives sont invités à venir à 10h le matin. On va leur faire une petite balade, on va les faire un peu se dépenser avant de manger quand même, pour qu'ils aient bien fait. Et Sébastien va leur faire visiter les vignes et il va leur raconter l'histoire du domaine. Et après, les gens vont venir et là, ils vont passer au menu. Donc, on est sur une formule à 90 € avec la Cormeévin par personne. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut le préciser, parce que sinon on va se faire gronder. Donc on aura de petites pièces apéritives. Et ça, je dévoile pas trop, parce que c'est un peu les petites surprises qui sont pas annoncées dans le menu. Donc c'est toujours bien quand il y a un petit peu de suspense. Donc après, il y a un amuse-bouche que je ne dévoile pas non plus. Mais là, on rentre dans le vif du sujet. Et en entrée, je vais faire un œuf parfait avec des asperges cuites en basse température et des copeaux de foie gras. En plat, il va y avoir de la poire de bœuf grillée, du rutabaga caramélisé que je vais rehausser avec du pollen de fleurs et du romarin avec son jus de viande, une ardoise de fromage sélectionnée par le chef. Et après, on va faire un dessert autour de la fraise et on ne va rien gaspiller, on va la manger dans tous ses états. En crème, en sorbet, en déshydraté. Donc voilà, donc pour ceux qui aiment un peu la cuisine, je vais développer un peu l'œuf parfait. C'est un œuf qu'on cuit dans sa coquille, dans un bain-marie, à 64 degrés pendant une heure. Donc ce qui nous fait un œuf un peu tremblotant, un peu plus que... C'est une cuisson... c'est pas comme quand on fait cuire dans une casserole où ça boue, on fait un œuf dur, un œuf mollet. Ça n'a vraiment rien à voir, parce que l'œuf est vraiment... Le blanc commence à peine à coaguler, on a le jaune à l'intérieur qui est très liquide. Donc c'est vraiment un peu... C'est spécial. C'est,
alors, si tu veux des fleurs de romarin, je peux t'en donner, parce que j'ai des romarins... Ils sont en fleurs, là, ils sont...
Là, ils sont magnifiques. Aussi, j'en ai aussi chez ma chérie, ils sont tous en fleurs.
J'ai ça, il est énorme.
Donc, ouais, mais avec grand plaisir. Après, les asperges en basse température, c'est des asperges que je mets sous vide, donc je vais faire un beurre noisette. Je vais mettre mes asperges crues dans mon sac sous vide, le beurre noisette froid, je ferme, et je cuis ça à 85 degrés au thermoplongeur, qui est un appareil pour cuire à basse température, qui est très précis. En termes de degrés. Et je vais les cuire pendant 20... Normalement, c'est 24 minutes, mais je vais les saisir juste avant de les envoyer. Donc moi, je vais les cuire que 20 minutes à 85 pour qu'elles finissent de cuire au moment où je les poêle. Et avec un petit copeau de foie gras, je vais garder un peu le... Pas vraiment le cul des asperges, mais je vais garder une toute petite partie des asperges. Je vais faire un petit crémeux d'asperges dans lequel je viendrai déposer mon œuf. Voilà. La poire de bœuf.
L'œuf parfait. Alors, comment on fait l'œuf parfait ?
Eh bien, l'œuf parfait, on le cuit dans sa coquille. Donc, pareil, je le fais au thermoplongeur. Donc, c'est 64 degrés pendant une heure. Dès que c'est cuit, on casse l'œuf et on envoie. Voilà. Après, il ne faut pas perdre de temps. Là, c'est chronométré. Et après, l'œuf, il est. C'est
parfait.
C'est, soi-disant, c'est l'œuf parfait. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais apparemment, c'est parfait. Voilà, la poire de bœuf, donc pour ceux qui s'intéressent un peu, la poire de bœuf, c'est le haut de la cuisse. Donc c'est quand même une partie qui est très très tendre. Et juste plancher, juste poêler, c'est délicieux, c'est d'une tendresse, ça garde son jus. Donc on va juste le faire saignant. On n'ira pas plus loin que saignant, à part s'il y a des convives qui demandent un peu plus. On fera, mais c'est vrai que c'est un morceau qui est tellement tendre et tellement juteux que saignant, ça marche très très bien. Et puis ça garde vraiment tout son arôme. Rutabaga, légumes anciens, voilà, donc je vais couper ça en rectangle, je vais le caraméliser dans une poêle avec du beurre, on va mettre un petit peu de sucre, ça c'est malheureusement mon défaut de pâtissier, je suis obligé de mettre un peu du sucre de partout dans mes recettes, et après je vais mettre du pollen de fleurs dessus, vous savez, c'est les petites billes, et c'est très bon pour la santé, c'est un antioxydant, donc en plus je pense à la santé de mes convives, vous voyez,
c'est bien.
Donc voilà, bon, le jus de viande, c'est un jus que je fais, je vais garder quelques morceaux de poire de bœuf et je vais faire cuire ça pendant une bonne dizaine d'heures pour avoir un jus très goûtu, bien corsé. Moi je suis quand même assez fan des jus corsés, j'aime quand ça pepse un peu dans l'assiette.
Alors je vais te poser une question parce que ça a l'air très alléchant tout ça,
ouais.
Tes fournisseurs?
Mes fournisseurs, alors je travaille pour les fruits et légumes, je vais au marché.
Oui.
Donc des fois je vais au Hall, des fois je vais au marché qui est à la place des Carmes.
Tu es sur Avignon, toi,
ouais,
c'est ça?
Moi je suis sur Avignon, donc je fais dans le local. La boucherie Saint-Didier, Avignon. Voilà, c'est une boucherie avec qui je travaille depuis un petit moment. Donc,
Saint-Didier, c'est le nom?
C'est la boucherie, ouais, elle est sur la place Saint-Didier. C'est sur la place Saint-Didier, c'est juste après la place des Corsins.
Ouais.
Le poisson, je travaille avec Élite Marée. Mais là, il n'y en a pas sur ce menu, il y en avait sur l'autre, mais il n'y en a pas sur celui-là. Et après, je crois qu'on a fait le tour, hein, les fruits et légumes, ouais. Marché, poisson, et après, ben, les desserts, pareil. Hein. Là, c'est dessert autour de la fraise, donc tu auras les premières de Carpentras. D'accord. Donc, ce sera sans doute. Alors, ça.
Moi, j'ai une amie qui fait des super belles fraises.
Ah, et bien voilà, tu vas me donner son contact.
Et je te donnerai son contact.
Avec grand plaisir. Moi, ouais. Plus ces petits producteurs, c'est, j'adore.
Franchement, elles sont très, très, très bonnes, ces fraises. Elle s'appelle Nathalie Fraise.
Ouais.
Et elle est sur les marchés.
Eh bien, c'est très bien. Et ben, ouais. Je vais aller la voir avec grand plaisir.
Voilà. Elle est le mercredi, elle est sur... en face du supermarché qu'il y a là.
Ouais.
Et après, elle est au marché de Velleron.
D'accord.
Alors, je ne sais plus quand, il faudrait que je la reçois, parce que je n'ai pas encore reçu de
producteurs.
De producteurs. Et ça je pense que je vais m'y coller aussi, parce que ce serait bien.
Il faut, et puis c'est bien, ça leur fait de la pub.
Alors, ce que je te propose aussi, c'est un jour, je fais venir un producteur avec toi.
Ouais.
Tu viens avec.
Ouais.
Un producteur. Quoi, tu viens avec? J'invite un producteur,
oui.
Tu viens et on fait une émission producteur, cuisinier.
Eh bien, avec grand plaisir. Moi-même. Eh bien, ce sera avec grand, grand plaisir.
Voilà. On préparera ça.
Eh bien, c'est parfait.
Donc, comme l'œuf.
Ouais, comme l'œuf, exactement. Et écoute, je crois qu'on a fait le tour du menu. Donc voilà, c'est le 12 avril à la Consonnière à Châteauneuf-du-Pape. N'hésitez pas à aller sur ma page Instagram, Julien Camin, chef privé, pour avoir tous les détails du menu.
Voilà, bah écoute, Julien, je te remercie beaucoup.
C'est moi qui te remercie, et puis on se revoit très vite à
voilà. Part, hein. Nous, on va parler un peu de. On a encore une petite minute pour parler de tout ce qui va se passer dans la semaine. Donc, Sacha, tu vas me donner un petit coup de main. Alors, demain, nous avons. Non, mercredi, nous avons Roland.
Oui, c'est ça.
Qui fait son émission.
Exactement.
Eh, vas-y.
Donc demain, nous, on n'a pas d'émission. Mercredi, on a l'émission du matin avec Roland qui est Culturez-vous.
Culturez-vous. Ensuite, Yasmina l'après-midi.
L'après-midi, Yasmina. Ensuite, le jeudi matin, on a Bric-à-brac à idées avec
Josie.
Claudie et Josie. Demain. Après-midi, l'émission Les Incontournables
qui reviennent.
Avec Lionel, qui reviennent pour une deuxième fois pour la semaine. Et vendredi, on a l'émission L'Essentiel de la Semaine avec moi-même et Claudie.
Et dimanche, nous avons Parasite, émission pour les amoureux du rock et du métal.
Avec Manu. Parfait. Voilà.
À partir de 21h jusqu'à 23h.
Exactement.
Voilà, nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine, une bonne soirée et à temps.